Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, je pense. Hein. Je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur le net. Ce mois-ci, vous avez été 55 000 à écouter les prédications. Et rien que pour celle de vendredi, donc nous sommes dimanche, rien que pour celle de vendredi, il y a déjà 1333 personnes qui ont écouté les 14 personnes qui ont partagé avec leurs amis. C'est une bonne chose. Et on approche maintenant, enfin, inscrivez-vous, devenez membre de la page Révélation Bible, et ça nous encourage parce que des fois on se demande si... Mais quand on voit les chiffres, alors, bon, ça fait plaisir, mais je crois que ce qu'on va faire, on va organiser peut-être pour l'année prochaine un séminaire dans le coin où vous allez pouvoir venir nous rencontrer et puis où on va pouvoir partager ensemble et... Ça serait une bonne chose, je pense. Hein? Écrivez-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. De toute façon, ici, c'est beau, la région est belle, il y a un camping pas loin, il y a des hôtels, il y a tout ce qu'il faut pour vous recevoir. Par contre, dans la communauté, ce serait difficile de vous recevoir parce que pour le moment, nous n'avons qu'une chambre d'amis. Alors, on ne peut pas entasser 55 000 personnes dans une chambre d'amis. Bien, on va faire quelques lectures ce matin. On va lire dans Matthieu chapitre 24. Je vous rappelle, c'est la suite de la prédication du dimanche, donc dimanche passé. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez peut-être mieux écouter la prédication dimanche passé pour pouvoir comprendre celle-là, bien que, quoique. Matthieu 24, 36, 42. Voilà ce qui est écrit. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour... et de l'heure, personne ne sait ni le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme, de Jésus. Quand Jésus reviendra, ce sera les mêmes circonstances, ce sera pareil que du temps de Noé, c'est-à-dire que, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'y a rien de mal à manger, à se marier, à marier leurs enfants. Mais ce que Jésus veut dire là, c'est qu'ils ont vécu en pensant que ça allait toujours continuer comme ça, malgré ce que Noé leur disait. Il leur disait, je suis en train de construire une arche, il faut venir dans l'arche, parce qu'il va y avoir un déluge. Ils disaient, ha ha ha, tu rigoles, tu nous amuses. Donc ils ne s'en occupaient pas. Alors, je suis douteur de rien, et jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous, il en sera du même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour de Jésus. C'est les termes bibliques qui peuvent être parfois un petit peu difficiles à comprendre. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il va prendre certains avec lui, il va les enlever avec lui, et certains, ben non, il ne les prendra pas, parce qu'ils n'auront pas veillé, parce qu'ils n'auront pas fait attention. On va faire une autre lecture dans Matthieu, chapitre 7, et verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que l'on puisse bien la comprendre afin de pouvoir changer les choses qui doivent être changées. Il y a quelque chose que je voudrais dire, il y a un de nos amis témoins de Jéhovah qui m'écrit et qui me dit, vous voyez, vous invoquez toujours le nom de Jésus, mais et vous dites Seigneur, Seigneur, mais c'est le nom du Père qu'il faut invoquer. Le nom du Père, c'est Jéhovah, voilà. Donc comme vous n'invoquez pas le nom de Jéhovah, vous ne faites pas la volonté de Dieu, donc vous ne serez pas sauvés. C'est ce qu'il a compris. C'est ce qu'on lui a dit, il le croit, et puis voilà. Mais quand on lit le texte, vraiment, c'est pas ça. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ou qui disent Jéhovah, Jéhovah, ou qui disent Jésus, Jésus. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est pas de dire Jéhovah, ou de dire Jésus, ou de dire Seigneur. C'est avoir beaucoup plus loin que ça. Cher ami témoin de Jéhovah, voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Bon, il n'est pas étonnant, mes frères et sœurs, que l'humanité ait essayé de refaire un christianisme à sa façon. Parce que le christianisme de Jésus, c'est pas de la rigolade, c'est pas de la fantaisie, c'est pas facile. Depuis longtemps, l'humanité cherche sa voie. Alors, bon, dans les derniers temps, on voit l'humanisme, le matérialisme, le capitalisme, le socialisme, le communisme. Vous voyez, toutes ces choses, en fait, elles ont comme but sincère. C'est un vain espoir de pouvoir trouver une justification à l'existence et de pouvoir améliorer l'existence des gens. Enfin, moi, j'espère que ce sont des gens sincères qui ont lancé tout ça. Enfin, quand on voit les résultats, on se demande des fois, hein. Mais l'humanité a toujours, dans toutes ces démarches, mis Dieu de côté. Ils ont mis Dieu de côté, tout en essayant de créer un monde de paix, un monde de prospérité, un monde bien. Ben, le christianisme n'a pas échappé à cette façon de faire. Le christianisme n'a pas échappé. Ils ont aussi mis Dieu de côté. La vérité est claire, le christianisme moderne est devenu quelque chose de très différent de ce qu'il était au temps de Jésus et des apôtres. Vraiment de très différent. Et on va voir ça dans les semaines qui viennent. Quel est le résultat de cela? Eh bien, les nations sont de plus en plus en guerre, il y a eu plus de morts. Ces derniers temps, depuis la dernière. Vous savez qu'il y a eu plus de morts depuis la dernière guerre mondiale que pendant la dernière guerre mondiale, par les guerres. Les riches prospèrent de plus en plus, il y a de plus en plus de millionnaires, de plus en plus de milliardaires, tandis que les pauvres meurent de faim et souffrent de maladies qui ne sont même pas soignées, parce que nous aussi, on souffre de maladies, mais on peut se soigner, hein. Enfin, de moins en moins aussi, parce que maintenant, il y a un grand désert en France, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de médecins. Mais qui va tourner les yeux vers la véritable solution? Ce n'est pas un sujet sans importance quand même. Il s'agit ni plus ni moins que de la voie qui mène d'un côté à la vie éternelle ou de l'autre côté à la mort éternelle. Et ce chemin peut-être en plus malheureux ou heureux, ça dépend. C'est pas une petite affaire. En fait, c'est le sens du verset que je vais vous lire là, dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Le salaire ou le fruit ou le résultat du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire Jésus, Dieu nous a donné Jésus comme sauveur, eh bien, c'est la vie éternelle. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas trois possibilités. Il n'y a pas de purgatoire. Hein. Il n'y a pas de. Alors quoi? Que dire? Eh bien, c'est simple. Ou bien vous avez le christianisme de Jésus-Christ, ou bien vous n'avez pas de christianisme. Peut-être vous pensez que j'exagère, peut-être que vous pensez que je suis sectaire, ou que j'essaie de vous faire croire qu'il n'y a que moi qui suis dans la vérité. Non, il n'y a pas que moi qui suis dans la vérité. On est des millions de personnes à croire ce que je vous dis là. On est des millions à le croire. Je voyage beaucoup, je sais ça. Je rencontre ces gens. Je ne suis pas sectaire. C'est pas parce que vous les connaissez pas qu'ils sont mauvais. Peut-être vous pensez que je suis trop dur ou que je suis irrespectueux envers la religion de vos parents. Mais comment voulez-vous que je sois respectueux envers des religions qui ont massacré des gens? Vous vous rappelez de Jim Jones, je rappelle souvent ça. Jim Jones, c'est ce fou pasteur pentecôtiste américain qui a emmené avec lui dans, je ne sais plus où, au Guatemala, ou je ne sais plus où c'était, 800 personnes, il les a fait bosser, et puis un jour, il a eu la révélation, il les a poussés au suicide. Ils se sont tous suicidés. Ça a fait la une des journaux il y a quelques années. Est-ce que vous rentreriez dans cette religion-là, vous? Non. Pourquoi? Parce que c'est une religion fou. Mais regardez un petit peu votre religion, l'Inquisition, la Saint-Barthélemy. Regardez tout ça. Et vous continuez là-dedans, vous? C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Ou parce que vous êtes des négationnistes, ou je ne sais pas. Il y a un problème. Il faut être sérieux quand même. Moi, je ne peux pas faire partie d'une religion qui a commis des milliers et des milliers et des milliers de meurtres. Je ne peux pas. On va dire ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. On l'a lu. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que ce n'est pas important de prendre conscience que Jésus dira à certains chrétiens « Je ne vous ai jamais connu. » Parce que c'est des gens qui disent « Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. » Et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » On pense toujours « Oh oui, mais il ne dira pas ça à moi, il dira ça aux autres. » Réfléchissez. Soyez conséquents, soyez sérieux. Soyez sérieux, soyez vrai, soyez authentique. Est-ce que je fais ce que Dieu veut? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui seront sauvés. Ah bon, moi je croyais qu'on était sauvés parce que Jésus était mort sur la croix, puis qu'il suffisait de croire et puis de se faire baptiser pour être sauvé. Oui et non. Parce que si vous croyez, cela implique le fait de faire la volonté de votre Seigneur. Et si vous ne faites pas la volonté de votre Seigneur, il n'est pas votre Seigneur et il ne vous connaît pas. C'est pas qu'il ne vous connaît pas dans le sens qu'il ne sait pas que vous existez. Il sait tout. Mais il n'a pas de relation avec vous. Vous croyez avoir une relation avec lui, vous vous illusionnez, il n'y a pas. C'est sévère ce que je dis. Mais je ne peux pas me permettre de vous raconter des bobards ou de vous prêcher des prédications que vous connaissez déjà au sujet de la mer calmée, de Bartimée ou de Zachée, de toutes ces choses que vous avez entendues mille fois, alors que nous sommes dans un moment important de l'histoire de ce monde. Jésus revient bientôt. On ne sait ni le jour ni l'heure, mais c'est bientôt, les signes sont là. Toutes les prophéties sont accomplies. En vérité, Jésus affirme que ceux qu'il rejettera seront ceux qui n'ont pas fait ce qu'il veut. Vous voyez qu'il est exigeant. C'est pour ça que les gens ont changé le christianisme. Ils ont fait un Jésus doucereux, plein d'amour, gentil, qui sauvera même le diable. Hein. Non, je suis désolé. Jésus ne sauvera que ceux qui croient en lui et qui font ce qu'il dit, qui font sa volonté. Ces gens-là, ils disent « Seigneur, Seigneur », mais ils font ce qu'ils veulent. Ça ne va pas, ça. Ils invoquent Dieu. Seigneur, Seigneur, Jéhovah, Yahvé, Jésus. Mais il n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur Seigneur. Quand on a un Seigneur, on fait sa volonté, non? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire maître. Certains disent, oui, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est sa volonté. Alors je vais vous dire ce qu'il faut lire pour connaître la volonté de Dieu. Vous avez Paris Match, vous avez Ici Paris, vous avez Gala, vous avez Voici, vous avez Playboy. Là, vous allez trouver la volonté de Dieu. Elle est écrite là. Je plaisante, hein. Je suis un peu sarcastique. C'est pour vous secouer un peu. La volonté de Dieu, elle est dans la Bible. C'est écrit là, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit là. Sa volonté, la volonté de Jésus, elle est écrite noir sur blanc dans la Bible. On la trouve aussi dans le livre de Mormon. Bien que les bons chrétiens qui disent « Seigneur, Seigneur » ne veulent pas le livre de Mormon, ça. Déjà, ils lisent presque pas la Bible. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'en plus, on leur donne à lire un livre qui vient d'une secte, n'est-ce pas? Et ils ont des idées très 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 arrêtées sur la Bible et sur le livre de Mormon. Par exemple, au sujet de la Bible, ils vont dire c'est mon église qui a la bonne interprétation de la Bible. Et toutes les gens de toutes les églises pensent ça. Les catholiques, au moins, ils ont eu le courage de dire en dehors de notre église, il n'y a pas de salut. Les pentecôtistes n'ont pas ce courage, mais si vous les écoutez bien, vous apercevez que c'est comme ça qu'ils pensent. Les baptistes, la même chose. Tout le monde pense comme ça. Nous ne pensons pas comme ça. Nous sommes respectueux et nous prenons ce qui est bon partout. Parce que nul ne détient la vérité. C'est Jésus la vérité. On ne peut pas détenir Jésus. Mais on peut s'approcher de lui. Et il y a des gens dans tous les milieux qui se sont approchés de lui. Et il est intéressant de savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont compris des Écritures. Si je n'avais qu'une lecture pentecôtiste de la Bible, ça serait une lecture tronquée. Si je n'avais qu'une lecture mormoniste de la Bible, j'aurais une lecture tronquée. Si je n'avais qu'une lecture catholique de la Bible, j'aurais même pas de lecture. Bon, les catholiques, il y en a quand même qui lisent un peu la Bible maintenant. Ils ont des idées très arrêtées. Certains me disent, mais moi j'ai lu la Bible, vous seriez étonnés de savoir quelle est ma connaissance, l'étendue de ma connaissance. Alors je parle avec eux, mais 5 minutes, hein, et je m'aperçois que c'est pas vrai, ils l'ont pas lu. Ça, on ne fait pas un vieux renard, ça fait depuis 68 que je le lis tous les jours. Je connais. Certains me disent, j'ai lu le livre de Mormon. Ah, ah, ah. Je discute même pas 5 minutes avec eux. Je vois que c'est pas vrai. Ils n'ont pas lu. Ils ont peut-être lu quelques passages dans le livre de Mormon. Mais surtout, ils se sont informés sur Wikipédia ou sur YouTube. Hein? Voilà. Pardon, mais je me moque un peu. Mais c'est malheureusement vrai. C'est comme ça. Faut être honnête. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Le peuple. On va lire Luc 6, 46. Pourquoi, c'est Jésus qui parle, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé un fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique, c'est-à-dire qui ne fait pas ma volonté, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, mais sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Un seigneur, c'est une personne à qui on doit obéir, on doit pratiquer ce qu'il dit. Mais même la plupart des ministres de l'Évangile et leurs fidèles ne mettent pas en pratique les enseignements et les exemples clairs que nous donne la Bible au sujet de Jésus, des apôtres et de la volonté de Dieu. Même des ministres, des prédicateurs, des pasteurs, des papes, la plupart ne prennent même pas la peine d'étudier soigneusement la Bible. Ils ne l'étudient qu'au travers de la grille de leur religion. Non, ça c'est pour les mormons. Non, ça c'est pour les pentecôtistes. Ça, non, les miracles, c'est plus pour notre temps. Non. Oh non, le baptême, c'est pas par immersion, c'est... Non, non. Ils ont la grille de leur religion. Ah, le lavage des pieds, non. Le lavage des pieds, on n'a pas à pratiquer ça. Vous rendez compte, il faut sortir des cuvettes, c'est fatigant. Ils ne se donnent pas la peine de s'informer... Et là, je dis que des choses simples, je ne parle même pas au sujet du péché, de ces choses-là. S'informer sur ce que sont les enseignements, les exemples, et quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si le peuple très catholique de France, la fille de l'Église, connaissait la parole de Dieu, il n'y aurait pas toutes les horreurs qu'on voit et toutes les lois iniques qui existent. Il n'y aurait pas. S'ils connaissaient, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ont une religion. Alors dans la religion, il y en a qui gueulent. « Ouais, il ne faut pas faire ça, c'est péché. » Ils sont tournés en bourrique. On dit « Oh, c'est des attardés. » Ce qui est important de nos jours, juste avant la venue de Jésus, c'est de désirer revenir à la véritable foi chrétienne. Et quelle est cette foi? Eh bien, dans Jude 3, il est dit, ce que c'est cette véritable foi chrétienne. Alors, je n'ai pas noté la référence, mais je l'ai trouvé facilement. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors vous me direz, mais pourquoi lire le livre de Mormon si tout est déjà dans la Bible? Ah, voilà une question qui est bonne. Eh bien, premièrement, parce que Jésus a dit qu'il irait faire entendre sa voix dans une autre bergerie. Il a dit ça. Vous pouvez trouver ça dans la Bible. Si vous connaissez la Bible, vous savez que Jésus a dit ça. Et il est véritablement allé dans une autre bergerie, puisqu'il est allé prêcher sur le continent américain, juste après son ascension. Il est allé là-bas pour prêcher. Qu'est-ce qu'il a prêché? Les mêmes choses qu'il a prêché et qu'on trouve dans la Bible. Alors vous allez me dire, alors à quoi ça sert de lire le livre de Mormon si c'est la même chose que la Bible? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce que il a mis de l'ordre, il a mis en ordre ce que les chrétiens se sont amusés à mettre en désordre. Jésus savait très bien que les chrétiens, entre guillemets, mettrait un immense désordre dans son église. Alors il a été là-bas, il a donné sa parole, et elle est tellement claire qu'elle remet en ordre tout ce que nos ancêtres ont mis en désordre. Et ce livre devait paraître à la fin des temps. Et c'est ce qui s'est passé. Ce livre est sorti dans les années 1830, par là autour. En effet, durant des siècles, des gens se sont permis d'ajouter au message de Jésus et des apôtres, alors que la Bible dit celui qui ajoutera sera retranché. Ou alors, il y en a qui se sont amusés à retrancher en disant non, ça c'est plus pour notre époque, ça c'était bon pour le temps des apôtres. Ils se sont amusés à retrancher au message de Jésus et des apôtres, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est sans dessus-dessous et le peuple est dans la confusion et le peuple est dans l'ignorance. On le tient dans l'ignorance. Et ces gens qui se sont glissés dans les églises et qui ont changé la grâce de Dieu en dérèglement complet, ils ont accompli un travail terrible, si bien qu'aujourd'hui, les gens, les croyants, pensent que ce qui est vrai, ben c'est faux, ils pensent que ce qui est faux, ben c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Tout est sans dessus-dessous. Maintenant, tous les vrais chrétiens savent que Jésus revient. S'ils lisent la Bible, ils savent qu'il reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. C'est Luc qui dit ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 21. Le grand problème avec les chrétiens qui savent que Jésus revient bientôt, c'est que la plupart se fixent leur regard uniquement que sur 2-3 signes avant-coureurs du retour de Jésus. Par exemple, que Israël est redevenu une nation. Jésus dit que la génération qui verra Israël redevenir une nation verra aussi le retour de Jésus. Alors les chrétiens sont tout fous avec ça, ils sont contents. Moi aussi je suis content, Israël est redevenu une nation, c'est génial, ça veut dire que moi je suis né en 50, ça veut dire que c'est pour... Dans ma génération, Jésus va revenir. Ça c'est formidable. C'est pourquoi on est dans l'expectative et je vous presse. Parce que c'est important, parce que c'est Jésus qui l'a dit, on peut pas, il n'a pas donné le jour et l'heure, mais il a dit, voilà, il y a des signes avant-coureurs, et Israël, c'est un des plus grands signes. Et puis, il y a d'autres signes aussi. Il y a la mondialisation. Il a dit que ça sera la fin des nations. ça ne veut pas dire que ça sera la destruction des nations, mais ça veut dire que ce sera de plus en plus les frontières, voilà, il y aura un gouvernement mondial, voilà. Et encore quelques années, ça faisait rire tout le monde quand on disait c'est écrit ça dans la Bible. Maintenant, ils sont bien obligés d'y croire, on est dedans. Même la Suisse qui se veut neutre, elle n'est pas dans l'Europe, elle n'est pas dans la mondialisation, mais elle participe quand même, elle est bien obligée. C'est ce qui se passe en ce moment. Et puis les dérèglements naturels, ça aussi, c'est un signe. Jésus dit, vous verrez ci, vous verrez ça, des tremblements de terre, voilà, des familles. Alors ils disent, ah, les signes sont là, Jésus revient, alléluia. Ben, ils ont raison, mais que font-ils du rétablissement de toutes choses annoncées par Actes chapitre 3, verset 21, que Jésus reviendrait au temps du rétablissement de toutes choses? Qu'est-ce qu'ils en font? Rien! Mais alors, rien! Rien de rien, non, rien de rien, rien. C'est-à-dire, ils voient les signes, Israël, mondialisation, toutes ces choses, mais ils ne se préparent pas, ils ne préparent pas leur lampe pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Vous connaissez la parabole. Ils n'ont pas assez d'huile, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir aller à la rencontre de Jésus. Ils savent que Jésus revient, ils ont entendu la voix qui dit « Jésus revient », mais ils ne sont pas prêts pour aller vers lui. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'ils ne se préparent pas. Et pourquoi ils ne se préparent pas? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils lisent mal. Ils sont des vierges folles qui, au dernier moment, nous demanderont « Donnez-nous de l'huile, donnez-nous... Ah, on n'avait pas compris, donnez-nous... C'est trop tard! C'est trop tard !» C'est dramatique, mais il arrivera un moment, vous savez, quand Noé, Jésus dit, il en sera du temps comme du temps de Noé, quand je reviendrai, ça sera comme au temps de Noé. Noé disait, allez, venez dans l'arche, alors, va ton arche construite en plein champ, complètement idiot, le pauvre type. Il se moquait de lui. Et puis un jour, c'est écrit, Dieu a fermé la porte. C'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est pas moi qui ferme la porte, c'est Dieu qui va fermer la porte. Un jour, vous voudrez entrer, c'est nous, je vous connais pas. Fermez la porte, trop tard, fini. Faire tic, faire bottom. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Il n'y a plus. Enfin, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Oui. C'est moi qui faisais les miracles. Vous ne faisiez que de prier. Ah, est-ce qu'on n'a pas prophétisé? Oui, vous avez prophétisé. Des choses plus ou moins vraies. Mais alors, ça compte pas. On a chassé des démons. Et puis alors, tu ne nous prends pas? Non, je ne vous prends pas. Je ne vous connais pas. Mais comment ça se fait qu'on a eu des miracles et qu'on a chassé des démons et parce que vous aviez la foi pour ça. J'ai exaucé votre foi, c'est tout, c'est votre foi. Mais vous n'aviez pas de relation avec moi. Et puis il ne dira pas désolé, il dira c'est trop tard, c'est fini, je ne vous connais pas. Dehors. Ben, ça c'est le côté dramatique. C'est le côté dramatique, c'est le côté que j'aime pas annoncer, mais qu'il faut que j'annonce. Je suis contraint par le Saint-Esprit de dire ces choses et de répéter ces choses. Mais il y a toujours deux côtés à toute chose. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite. Hein, c'est comme ça. Et alors le côté positif, c'est que les vrais chrétiens sont en paix malgré la tribulation, malgré les problèmes, malgré les maladies, malgré le dénuement, malgré toutes sortes de choses désagréables. Le vrai chrétien, il est en paix. Pendant que, dans ce temps de confusion, le chrétien, il voit tous les scandales dans les églises. Alors, je me rappelle, enfin bon, je ne vais pas raconter, c'est honteux. Dans les églises, dans la politique, ça, il y a même pas, ça passe partout, hein, on le sait, dans les familles, des scandales dans la famille. Eh bien, les vrais chrétiens, eux, sont mis à part par Dieu. Ils sont mis à part par Dieu. Dieu donne aux vrais chrétiens la force au milieu des tribulations, des persécutions et des moqueries. Parce que on se moque des vrais chrétiens. Mais est-ce qu'il faut être bête au XXIe siècle pour croire en Dieu? Il y en a qui m'écrivent ça. Hein. Et Dieu fait de grands miracles. Ah oui, mais tu vois, ça c'est dangereux, les gens qui font des miracles. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, même si vous faites des miracles, je ne vous ai pas connu si vous ne faites pas ma volonté. Ça ne veut pas dire que ceux qui font des miracles ne sont pas dans sa volonté et qu'ils ne sont pas connus par Jésus. Jésus a dit, allez par tout le monde, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Nous le faisons. Nous avons vu des milliers de guérisons de malades, nous avons vu des possédés délivrés, nous avons pourvu aux besoins des siens, et même des patients. On a pourvu aux besoins de toutes sortes de gens. Et Jésus est toujours notre bon berger, et nous ne manquons toujours de rien, tout va bien, parce que nous sommes fidèles à sa parole écrite, pas à ce que nous imaginons être sa parole, pas à une interprétation de sa parole, mais à sa parole écrite. Vous savez, la Bible a été tellement interprétée d'une manière ou d'une autre, que maintenant elle ne se suffit plus à elle-même pour prouver quelle est la vérité. C'est pourquoi Dieu a envoyé le livre de Mormon afin de mettre au clair les choses. Ah, pourquoi vous avez besoin de tout ça? Mais vous n'en voulez pas. Vous dites, non, c'est une secte. Il y en a qui écrivent, alerte, secte, sur ma page. Il est toujours notre bon berger, parce que nous sommes fidèles à sa parole, à ce qu'il dit, nous faisons sa volonté, nous obéissons, nous pratiquons ses ordonnances, comme par exemple, nous pratiquons le lavage des pieds, nous prenons le corps et le sang de Christ tous les jours lors du repas du soir, nous donnons notre dîme, nous scellons nos familles par le baptême de 1 Corinthiens 15, 20, 29, je crois, 23, je ne sais plus, mais par contre, on le pratique, hein, voilà, même si je ne me rappelle plus la référence. Et puis tout le reste. Et Dieu déverse sa bénédiction sur nous selon sa promesse. Par exemple, pour la dîme. Il y en a qui disent, c'est pas dans le Nouveau Testament. Si, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas contre. Et puis en plus, la dîme, c'est à Jésus qu'on la donne, c'est-à-dire à Melchisédek. Mais ça, les chrétiens ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne leur enseigne pas. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne connaissent pas, ils ne savent pas. Jésus dit pour la dîme que celui qui apporte sa dîme dans la maison de Dieu, il ne manquera de rien et Dieu déversera sur lui l'abondance. Vous n'êtes pas dans l'abondance, il y en a qui disent « Oh, moi je vous enverrai bien un don pour les pauvres Africains, mais j'ai pas de sous. » Ben, pourquoi vous n'avez pas de sous? Parce que votre seule source de revenus, c'est votre petite retraite ou c'est votre petit salaire. Mais si vous faisiez confiance à Dieu en faisant ce qu'il dit, si vous faisiez sa volonté, Dieu répondrait l'abondance sur vous. C'est ce qui est écrit, mais vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas, la preuve c'est que vous ne le faites pas. Il y en a même qui disent que c'est faux, il ne faut pas le faire. Je me demande comment pourrait fonctionner une église où il n'y a pas les dîmes et les offrandes. Je connais un gnagnou comme ça, qui dit « Non, faut pas donner la dîme, c'est diabolique. » Ouais. Alors, il a voulu réunir des gens autour de lui, dans sa salle à manger, puis après, il en avait marre, parce qu'il s'est aperçu qu'il fallait qu'il leur donne à manger, parce que les gens s'incrustaient après le culte, alors il a dit « Non, on va plutôt faire... » Alors, il était loué une salle, dans un bistrot un peu plus loin de chez lui. Je sais, j'ai les photos. Mais au bout d'un moment, il s'est aperçu que s'il ne fait pas de collecte, s'il ne prend pas les dîmes, ben, il est tout seul pour payer la location de la salle. Puis au bout d'un moment, il ne pouvait plus. Puis les gens disaient, « Ah, c'est bien, ça nous a fait du bien. Au revoir, frère, Dieu vous bénisse. Ouais, » Puis lui, il fallait qu'il aille payer, parce que tout se paye. Tout se paye. Il faut bien quelqu'un qui paye. Et quand on est le corps de Christ, quand on est un ensemble, ben, on participe. Et comment? Ben, c'est écrit par les dîmes et les offrandes. Et si vous le faites, vous serez béni, vous serez enrichi. C'est ce que la Bible dit. Mais si vous ne voulez pas de la Bible, restez dans votre misérabilisme, si ça vous plaît tellement. Alors, Dieu tourne en notre faveur même nos ennemis. Il est toujours notre forteresse. Il est toujours notre rocher. Notre maison est construite sur lui. Notre famille est construite sur lui. La pluie tombe, le torrent se jette contre notre maison, le vent souffle, mais notre maison, elle tient debout. Il y a un gros lard qui est venu me dire, « Je viens contempler ton échec. » Ah oui, quel échec? Mais quel échec? C'est pas parce qu'il pleut, parce qu'il y a un torrent qui se jette contre nous, que c'est un échec. C'est pas un échec, c'est juste une tempête, et puis c'est tout. Quel échec? Son échec, je contemple. Il était pasteur, maintenant il est vendeur de planches à repasser. Pardon ? Je ne pourrais pas le dire, mais je l'ai dit. Le sang de Jésus est placé sur nos linteaux. Des hommes peuvent nous faire du mal, le diable peut même tuer notre corps, mais nous savons sauver. Même la mort nous est un gain, même la mort c'est un gain pour nous. C'est pas que je suis suicidaire, mais moi je me réjouis de partir d'ici parce que c'est très beau ici. Si vous pouviez voir comme c'est beau ici, on va faire un petit film pour que vous puissiez voir comme c'est beau ici. Mais c'est tellement mieux dans le ciel de Dieu. Jésus nous prépare une maison, mais ça va être tellement mieux qu'ici. Que même la mort m'est un gain. Alors, il est toujours notre bon berger, il nous conduit toujours vers le meilleur. Vraiment. Vers les meilleures personnes, vers les meilleurs endroits, il pourvoit à nos besoins, il nous inspire toujours les meilleures idées, et quand parfois on le prie et qu'il dit non, mais c'est toujours pour notre bien, on s'en rend compte un peu plus tard, on dit, heureusement qu'il n'a pas répondu, parce que dis donc, quel cata. Il nous donne l'huile sacrée pour que nos lampes soient allumées dans les ténèbres de ce monde. Nous ne sommes pas dans la confusion. Nous savons ce qui est le bien, nous savons ce qui est le mal. Et nous comptons sur Dieu, qui est notre bon berger, pour nous conduire. Alors on a travaillé pour Jésus. On a travaillé dans l'Église, dans nos familles, dans l'évangélisation, dans l'humanitaire, et on continue. Et nos travaux ne passent pas inaperçus aux yeux de Dieu. La Bible dit, Dieu voit tout, il sait tout, et une récompense vous attend. Hein, tu travailles pour les récompenses ? Oui, je travaille pour les récompenses, si ça te fait plaisir. Bien sûr que non, je ne travaille pas pour les récompenses. Je travaille parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de travailler pour Dieu. Ou si en plus c'est une récompense, je ne vais pas cracher dessus. Non ? Il faut arrêter d'être religieux, stupide. Alors nos cœurs sont calmes au milieu des tempêtes, au milieu des menaces, au milieu des menaces religieuses, politiques, financières. Et Dieu nous surprend, c'est toujours au dernier moment. Pouf. Regardez par exemple pour le château. 5 ans de prière. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, en 3 semaines, on vend le château, on achète une nouvelle maison plus belle encore. En 3 semaines, pouf. Voilà comment Dieu fait. Au dernier moment, le dernier jour encore, il manquait 25 000 euros. On dit, comment on va faire, comment on va faire? Le Seigneur nous a donné une idée. Non mais c'est extraordinaire. Voilà notre Dieu. Alors il y a des petits renards qui essayent de s'introduire, n'est-ce pas, dans la vigne du Seigneur. La Bible dit qu'il y a des petits renards qui s'introduisent dans la vigne du Seigneur pour mettre la pagaille. Eh bien, nous, ils essaient d'entrer dans notre vigne. Mais on les éjecte au nom de Jésus. Plus de petits renards. Terminez les petits renards. Alors, comme dirait mon ami Payon, mon ancien professeur à l'école biblique, il disait, si vous êtes jaloux, ben faites comme moi. Ayez foi en Dieu. Si vous êtes jaloux de mon bonheur, de ma prospérité, faites comme moi. Ayez foi en Dieu. Et il fera pour vous, comme il fait pour moi, la même chose. Vous savez, j'ai un ordinateur. Et moi, je ne suis pas très fut-fut avec les ordinateurs. J'ai toujours besoin que quelqu'un vienne me donner un coup de main parce que j'ai tendance, vous savez, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'appuie sur un bouton. Ça s'éteint, ça se remet en marche, le bug est toujours là. Je rappuie sur le bouton. Ça s'éteint, ça se remet en marche, le problème est toujours là. Je rappuie sur le bouton. C'est inutile! C'est inutile d'appuyer toujours sur le même bouton alors qu'on sait très bien que ça produit toujours le même résultat. Ce qu'il faut, c'est poser la bonne action juste qui va éliminer le problème dans l'ordinateur. Et moi, je ne sais pas toujours comment il faut faire, alors Stéphane, tu peux m'aider? Voilà. Il y a quelqu'un qui sait faire. Alors il vient m'aider, il fait blablabla, ça y est, c'est réglé. Eh bien, je suis une espèce de Stéphane pour vous, c'est-à-dire que si vous êtes en train, vous avez bugué dans votre vie chrétienne et que vous êtes toujours en train d'appuyer sur le même bouton et que ça ne marche toujours pas, ben, je suis là pour vous dire ce qu'il faut faire. Ma sœur Camélia, elle disait, quand tu n'as pas compris quelque chose, la surveillante est là pour l'expliquer. Dis que tu as compris, tu n'as pas compris, le tout n'est pas d'avoir compris, mais laissez croire qu'on a compris. Si j'avais compris que tu n'avais pas compris, à présent nous serions compris. Tu as compris, non? Ben, tant pis. J'espère que vous avez quand même compris. J'espère que vous avez compris. Ce qu'il faut, c'est poser l'action juste qui va éliminer la panne. Eh bien, dans la vraie vie, c'est pareil. Arrêtez de faire les choses qui vous mènent à rien. Arrêtez de prier de la mauvaise façon. Seigneur Jésus, je te prie. Non, c'est pas comme ça. On prie le Père au nom de Jésus. Voilà comment on doit faire. C'est comme ça que Jésus a dit de faire. Ou arrêtez de prier la mauvaise personne. Oh, Sainte Vierge, ou Saint Benoît, ou Sainte Rita, ou ça, ça sert à rien. Continuez, ça sert à rien. De temps en temps, vous croirez être exaucé, c'est simplement un impondérable de la vie qui fait que vous avez reçu ce que vous avez demandé, mais c'est tout. Saint Benoît, je te prie pour qu'il fasse beau demain. Pouf, il fait beau. Vous voyez, j'ai prié Saint Benoît, il fait beau. C'est pas Saint Benoît, c'est simplement parce que voilà, c'est comme ça. Moi là, je vous parle de prier pour recevoir des choses qui sont impossibles. Des difficultés que vous n'arrivez pas à résoudre. Et qu'il va résoudre, qu'il peut résoudre, qu'il veut résoudre. Si vous voulez que votre vie change, il faut que vous changiez votre vie. Faites ce que vous devez faire pour que les choses changent. Mais c'est vous qui devez changer, ce n'est pas les choses, c'est vous qui devez changer. Nous ne vivons pas au temps de Noé. Nous n'avons pas d'arche à construire. Nous vivons au temps de Jésus aujourd'hui. Et les gens sont semblables qu'au temps de Noé. C'est ça le problème. On a fait des progrès technologiques, mais on est toujours les mêmes animaux. Au temps de Noé, vous aviez des gens qui croyaient, qui travaillaient à la construction de l'arche. C'était ça que Dieu voulait à l'époque. Ben ceux-là, ils ont été sauvés. Et les autres, plouf, voilà. Pas d'état d'âme, hein. Ils ont été avertis, ils n'ont pas voulu, ils se sont moqués, ils ont dit c'est pas vrai, ils ont dit c'est une secte, plouf, pas d'état d'âme. Il arrive un moment où Dieu dit, terminé, je ferme la porte. Ça vient ce moment. Et c'est pareil aujourd'hui, Jésus dit, il en sera de même au temps de mon retour qu'au temps de Noé. Si vous travaillez au rétablissement de toutes choses dans votre vie, vous serez sauvés. Sinon, plouf, plouf et replouf. Vous resterez dans la grande tribulation qui va sévir pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Je vais juste lire un texte et après je termine. Dans Matthieu 24, Jésus nous dit ce que ça sera ce temps. Si vous avez envie de passer par là, hein, parce que ça va arriver là, hein. L'Antichrist, il est déjà né, il existe, il est quelque part. Matthieu 24, 21, 22. Alors, à ce moment-là, quand nous aurons été enlevés, quand nous serons partis, comme Noé est parti dans l'arche, quand on sera partis avec le Seigneur, nous autres, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors vous êtes un élu, mais vous resterez dans la grande tribulation tout simplement parce que vous n'avez pas obéi et vous devrez payer en souffrant. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne voulez pas mettre en ordre votre vie maintenant. Mais c'est bête ! C'est stupide ! Il y aura une détresse telle que le monde n'a jamais connue. Mais est-ce que vous imaginez? Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu? Vous voyez ce qui se passe dans le monde à l'heure actuellement? Ben c'est du blablabla à côté de ce qui va arriver. Quand l'Antichrist va venir, ça va être l'horreur totale, l'horreur complète. Vous voulez vivre ça? Vous voulez prendre le risque de vivre ça? Oh, je sais, il y a des doctrines de pré-tribulationnistes et de post-tribulationnistes. Alors, ils discutent là-dessus. Pendant qu'ils discutent, nous, on travaille. On fait la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Faites la volonté de Dieu. Soyez bénis. Soyez enrichis. Soyez prospères. Soyez consolés. Dans les moments où tout est sombre, soyez une lumière. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de m'avoir donné ce message et je te prie pour que ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'au bout puissent être fortifiés, corps, âme et esprit, et que ceux qui doivent changer, changent. Amen. Amen. Au revoir.